je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, le salut, puis somme vigid, sit morie, levi grossi, au releple, von unserem Sender, Radio Judaica, mir sind on fonctionni, mensch, meier, fleidizit, wie fetter, und welderum. Ce bon matin, je voulais tous vous dire un grand chaleureux merci. Notre radio est de plus en plus écoutée, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des bonnes audiences. On m'a donné cette chance d'être là, devant cette forêt de micros, la radio est tellement mystérieuse et envoûtante. Une belle boîte à images. Alors Muller, qui est ton invité? À qui as-tu fait une place ce matin? Un journaliste, grand reporter, qui a fait le début de sa carrière à l'autre bout du monde. Et nous allons découvrir cette vie de reporter journaliste. Très heureux de t'accueillir devant cette ribambelle de micro. Bonjour Jacques Rigaud. Bonjour. Ça fait plaisir de t'accueillir.
Eh bien bonjour André. Ben, moi aussi, je suis bien content de te retrouver. Ben, alors c'est marrant, derrière un micro comme ça. C'est la première.
Comme à tes débuts, quoi.
Comme à mes débuts.
On va t'en parler, on va en parler un peu. Alors, comment tu gazouilles dans ton monde de l'image, de rencontres? Comment raconte-moi un peu ta petite vie de reporter.
Écoute, je dois avouer que j'ai fait un beau métier.
Tu le referais?
Ouais, je le referais. Ouais, sans hésiter. C'est sûr qu'il a un peu évolué, peut-être pas tout à fait comme moi je le souhaiterais, mais si tu veux, ça m'a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer énormément de gens.
C'est un livre ouvert?
Ah, complètement, oui. Et puis l'intérêt aussi d'être aussi derrière une caméra, c'est ce que je dis, c'est qu'on a aussi une écriture. Hein. On fait des fautes d'orthographe et des fautes de syntaxe.
Oh, tu faisais pas, mal. Tu n'en faisais pas, toi, je te connais.
J'ai fait quand même quelques pâtés.
Pâté Marconi. La voix de son maître.
La voix de son maître, oui. Ça, je dois avouer que de temps en temps, je me suis un peu raté. Mais...
Jacques, d'où est venue cette envie de parcourir le monde avec une caméra? Comment t'es venu à la caméra?
En fait, de façon assez bizarre, parce que j'ai commencé d'abord par la radio à Cayenne.
On en parlera un peu plus tard, ouais.
Ouais. Et puis, il s'est trouvé que on devait monter la télévision, tout simplement. Et à l'époque, mon vrai rédacteur en chef qui m'a appris le boulot, c'est Jérôme Bellet.
Ah ben, un grand maître, on l'a tous
un
connu.
Grand maître.
Et c'est lui qui a fondé, je crois, la radio, hein, la radio, les news.
Oui, c'est ça, France Info et compagnie.
France Info,
ouais. Et puis il y a les chaînes en toute image, c'était lui. Ouais. Et donc, il m'a dit, ça serait bien de faire des images aussi. Et puis, je suis parti à commencer à tourner avec un bel OL.
Ah, les trucs du Vietnam, là.
Oui, oui.
Les petites belles avec une tourelle,
c'est
où il y avait trois objectifs.
Absolument.
Waouh, voilà. 16 mm, hein, je crois.
16 mm, wow. Il ne fallait pas trop se rater parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pellicules.
Voilà.
Et puis, de fil en aiguille, après, j'étais faire une formation avec un cadreur du cinéma. Un type Claude Armand, un type absolument charmant, un très, très bon cadreur. Et il m'a commencé à me faire travailler. Et d'abord, j'ai commencé par porter le pied de la caméra. Et les caméras étaient lourdes à l'époque.
J'imagine, c'était des Ariflex ou c'était quoi des...
De plus grosses que ça encore.
Wow.
Et c'était un peu compliqué. Mais après, je suis allé pendant 2 mois en formation encore avec des confrères. Je suis parti en Martinique.
Mais Jacques, on ne peut pas se former. Tu as le sens de l'image. C'est inné, ça. C'est ton talent. C'est...
je crois que j'avais déjà peut-être l'œil à regarder. Parce que d'abord, je vais faire la photo.
On est des regardeurs avant toute chose. On est des gens qui savent regarder, savent observer, quoi.
Moi, j'ai appris la photo par un type incroyable qui était le seul photographe de Cayenne à l'époque. C'était un mec qui faisait beaucoup de tirages en noir et blanc.
Ah
évidemment.
C'est la belle école. Ouais.
Oui, à l'école. J'ai appris avec ça et je faisais les mariages avec lui.
Génial. Alors, Jacques, je voulais te demander, mais tu as démarré ta première vie professionnelle. La radio, c'est à 8000 km d'ici, de ce studio. Où c'était ça? Raconte-moi.
C'était donc à Cayenne.
Cayenne?
Là que j'ai démarré.
C'est comment Cayenne? C'est pimenté, non?
Ah oui, ça pourrait être pimenté, mais moi j'ai adoré. J'ai passé 5 ans en Guyane, mais j'ai réellement adoré. Je me suis jamais.
Fais-nous rêver un peu. Ils sont comment les paysages? C'est humide là-bas, non?
Alors, en fait, il y a une partie côtière, où comme il y a les alizés, disons que c'est tout à fait supportable. La partie plus humide, eh ben, c'est quand on va dans la jungle. Et là, la jungle, on ne peut pas aller n'importe où.
Ah, attends, on va d'abord demander à Thomas de nous mettre une petite musiquette qui va te rappeler un bon souvenir. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir cette petite musiquette pour Jacques.
Cayenne, c'est fini. Pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini.
Alors, c'était aussi ton Cayenne, ça? Cayenne, ouais. le bagne et les bagnards?
Ben oui, parce que j'en ai connu.
T'en as connu et tu as vu les bagnes?
Ah ben ça, oui, ça, je les ai eus. J'ai vu notamment celui de... Alors, j'ai vu celui de Saint-Laurent-du-Maroni, qui était là où arrivaient les bagnards.
C'est comme dans Papillon, comme dans le film, c'était un peu pareil.
Je crois que c'était encore pire.
Encore pire que... On a déjà vu le pire, là, avec ce magnifique film de Dustin Hoffman et de Steve McQueen.
Et après, il y avait les îles du Salut, dont une qui est celle-là, puisque c'est là qu'il y avait notre pauvre Dreyfus.
Ah oui, Dreyfus. Oh là là, quelle horreur.
Ouais. Ensuite, il y avait l'île du Diable et l'île Royale, sur lesquelles se trouvait André Charrière. Et lui, il est parti d'une de ces trois îles-là. Donc Charrière qui a écrit ce fameux bouquin.
C'est un bagnard, hein, Charrière. C'est un bagnard. C'est lui qui a écrit le livre.
Ouais,
le best-seller.
Papillon.
Papillon, waouh, ouais. Énorme. Et tu l'as rencontré, cet homme?
Ah oui, celui-là, je l'ai rencontré.
Mais quelle chance, ouais. Extraordinaire.
Oui, je l'ai rencontré d'une part à Cayenne et d'autre part, je l'ai rencontré quelques années plus tard à Strasbourg, à la radio.
Quelle coïncidence.
Vraiment le hasard. Vraiment le hasard.
Et t'as reconnu?
Ah oui, mais parce qu'on avait passé un bon moment, en plus de ça, à Cayenne. Ben, c'est un type qui a une gouaille pas possible, quoi. Il était incroyable, quoi, ce type. C'était une rencontre extraordinaire.
Comme toutes les rencontres que tu as faites pendant ta carrière, tu as rencontré des gens de tellement mondes différents, la culture, le médical, enfin le sport, et puis Cayenne. Mais tu ne m'as pas dit les paysages, comment c'était Cayenne avant qu'on écoute la musique?
Alors si tu veux...
Tu parlais de la jungle à un moment.
Moi j'ai passé beaucoup de temps à circuler en Guyane. Alors à l'époque, moi je suis arrivé en Guyane, j'avais que 17 ans, je suis arrivé en 1963, j'ai commencé à la télé en 66. Quand moi je faisais mes reportages, ça m'arrivait souvent de partir en pirogue pour faire de la radio, un peu ça. Ou alors on prenait des petits avions pour aller dans les villages qui étaient lointain. En pleine jungle.
Ah ouais, wow.
C'était les seuls moyens de communication, on avait très peu de routes. La seule grande route qui existait à l'époque, c'était de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, dans à peu près 40 km au moins, qui était sur de la latérite, sur de la terre battue, comme ça. On mettait, grosso modo, pour faire 120 km, on mettait entre 3 et 4 heures suivant.
Et après, il y a le lancement de la fusée là-bas aussi, Kourou, non? Tu as été là-bas en tournage également?
Oui, alors là, j'étais aussi... J'ai eu la chance d'être un des rares, à faire des images des premiers essais de fusée à Cayenne.
Tu étais accrédité, tu avais une accréditation pour aller là-bas?
C'était même pas... comme j'étais le seul à faire des images à Cayenne, donc ce n'était pas compliqué. Et ensuite, il y avait ceux qui venaient de l'extérieur, en fait, eux étaient accrédités.
Ah oui.
Mais en l'occurrence, là, c'était moi qui avais fait les premières images du premier lancement de fusée. Une petite fusée.
C'était une belle école, Cayenne, pour toi? C'était la radio, le son, l'image?
Ouais, vraiment.
C'est des choses qu'on n'oublie jamais.
Non seulement on ne peut pas les oublier, mais c'est là que j'ai appris à travailler. J'ai appris à travailler.
C'était ton école?
Ouais, j'ai appris à travailler. J'étais sur le terrain. Ça ne m'a pas empêché ensuite de continuer à faire la formation grâce à l'ORTF, où j'ai eu pas mal de stages.
Où tu as travaillé, enfin tu rencontrais Pierre Desgrobes, je crois, 5 colonnes à la une.
J'étais avec des journalistes qui travaillaient avec 5 colonnes à la une et Panorama.
Waouh.
Et c'est eux, j'avais fait un stage qui était fort intéressant à Maison Lafitte avec ces gens-là. Et j'ai travaillé avec eux pendant 2 mois et ça a été vraiment quelque chose de hyper important pour moi.
Oui, c'est incroyable. Ouais. Et tu as fait des tournages aussi pour eux?
J'ai tourné pour eux et puis j'ai retrouvé un des formateurs qui était Vakevitch qui a été à un moment donné rédacteur en chef ici à Strasbourg.
Ouais. Parce qu'un jour, dans les années 70, les années pâte d'éléphant, chemise à fleurs, tu es revenu à Strasbourg. Tu es revenu à Strasbourg en Alsace.
Et ben en fait, je suis arrivé à Strasbourg en faisant un grand détour par différentes villes en France.
Où tu as travaillé avant de venir à Strasbourg. Et pourquoi tu as choisi Strasbourg ? Parce que personne ne voulait venir.
Non, même pas. En fait, il se trouve que mon mentor, c'est Jérôme Bellet, qui était rédacteur en chef, qui a été nommé de Cayenne à Caen.
À Caen, ouais.
Et quand il a été à Caen, il m'a fait rentrer.
Ah
donc,
ouais.
Il avait demandé ce que je le suis.
Que tu sois à Caen avec lui.
J'ai atterri avec lui. Puis quand après il est parti à Paris, moi j'ai continué à naviguer. J'ai été travailler à Rouen, à Tours, à Orléans.
Ça devait être quand même des paysans, non, de revenir dans les régions quand tu reviens de la jungle et tu as été en pirogue et devenir en Alsace ou faire d'autres villes en France, de France Télé, ça devait changer quand même.
Ben ça me fait un effet un peu surprenant parce que moi, j'étais resté quasiment 4 ans d'affilée à Cayenne avant de rentrer en France. Et tout d'un coup, quand je me suis retrouvé dans des grandes villes, j'étais un peu dépaysé. Quoi.
Ben, j'imagine, ouais.
J'étais un peu flou là-dedans. J'étais un peu perdu.
Surtout que Caen, ce n'est pas une grande ville non plus. Hein. Caen,
oui,
c'est
mais
un
alors
peu...
par rapport à Cayenne, c'était une grande ville.
Ah, c'était une grande ville par rapport à Cayenne.
Ça faisait une grande ville. Quoi. On était à l'époque peut-être moins de 30 000 à Cayenne. Quand je suis arrivé à Caen, il y avait déjà un peu plus de monde. Puis de prendre le train, des trucs comme ça.
C'est ce que tu n'avais pas là-bas.
Manifestement pas. Ouais. Quoi.
Et alors en région, tu t'es éclaté aussi, tu as fait des choses intéressantes, tu as suivi l'actualité quotidienne.
Oui.
Mais tu as tout fait, quoi, la culture, le cinéma, enfin, tout est plein de reportages sur tout.
Dès que je suis passé par du fait divers à la politique, en passant par l'industrie, par l'humanitaire, par les reportages dans des endroits très chauds, où on se fait tirer dessus, mais quand on court vite, on s'en sort.
C'est ce qu'on a connu, ouais.
Voilà, donc, je suis passé par tout ce que fait un journaliste quand il a envie de faire ça, quoi.
Le quotidien, quoi, du journaliste.
Oui,
ouais.
Oui.
Et après, ton support à toi, c'était l'image. Toi, tu faisais l'image, mais tu étais avec un rédacteur et un ingénieur du son.
Ouais.
Et vous travailliez même avec un éclairagiste, je crois, à l'époque.
Alors, 30 ans, on avait le bonheur d'avoir quelqu'un qui faisait de la lumière.
Parce qu'il ne fallait pas
s'imaginer qu'on pouvait travailler partout sans avoir d'éclairage.
Et c'est aussi une bonne ambiance dans les voitures de tournage. J'imagine, c'est un peu Boy Scout, comme ça, on s'amuse.
C'est deux choses.
On ne peut pas tout raconter. Je sais bien. Bah écoute, on va reposer un tout petit peu les oreilles et on va écouter une musique que tu affectionnes. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir du Billie Holiday. Alors, Jacques, commencez quand tu écoutes cette dame chanter. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu ressens ?
Alors, beaucoup d'émotions.
Mmh, ça se voit, tu as les yeux un peu embués. Ouais.
Ouais, parce que cette fille-là, elle a eu une vie tellement tordue.
Ouais.
Mais elle avait un tel talent.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai écouté son dernier enregistrement, c'était à pleurer.
Tu l'as écouté où ?
Alors, j'écoute à la radio.
Ah, à la radio, ouais.
J'écoute, d'accord. Je suis désolé,
mais... Oui, non, mais t'étais pas à Chicago
pas à Chicago, malheureusement, ouais. Non. Mais j'aime bien le jazz, parce que pour moi, c'est la musique essentielle.
La musique de la vie, tu disais tout à l'heure.
Ah oui, complètement, oui. Ouais. Ouais, ça dit beaucoup de choses.
Et c'est aussi... Elle était très élégante, cette femme charmante, elle était belle.
C'est une femme magnifique qui a terminé sa vie dans la misère, pratiquement. Ouais, ouais. Et là où j'ai encore plus connu cette femme, c'est, je te dis, c'est par rapport à ce dernier disque qu'elle a enregistré, qui était... Ouf, incroyable,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais. Ouais. Bah, écoute, on a bien fait de choisir, tu as bien fait de me demander cette musique. Alors, parle-moi aussi un petit peu comment tu as fait des magazines, tu as fait plein de choses, tu n'as pas fait que l'actualité. À un moment, tu étais sur L'Art et la Manière à Strasbourg avec Christine Lefebvre, as beaucoup, cette grande dame avec qui tu as beaucoup, j'avais beaucoup de respect, qui connaissait plein de choses de la culture. Je me souviens qu'un jour, elle m'avait parlé d'un tableau de Picasso à Bâle, je crois, quand il y avait une expo. Et elle rentrait dans le tableau, elle m'expliquait ce que Picasso voulait raconter, mais j'étais comme un enfant qui regardait un tableau que j'avais pas compris, ouais. Et elle nous a tout expliqué, quoi.
Avait une grande culture.
Ah ouais, était très
et elle savait bien l'expliquer,
très culturisée.
Quand on travaillait, on n'avait pas beaucoup de choses à se raconter parce qu'on était sur le même créneau,
très complémentaire,
et elle avait une écriture qui était incroyable, quoi. Je veux dire que c'était... Elle donnait le sens de la culture sans que ça soit au ras des pâquerettes.
Ouais, c'est ça.
Mais elle
arrivait à t'intéresser à quelque chose.
Intéressée, ouais. Surtout que ce soit avec des mots que tout le monde comprenne, mais c'est pas basique, quoi. Il fallait quand même un petit.
Et c'était la responsable de la culture à France 3 Alsace.
C'était la responsable de la culture. Ouais. On a fait des beaux voyages à l'étranger.
Ah, je m'en souviens, j'allais venir. Tu étais avec elle en Inde, je crois, au Japon.
Ouais.
T'as beaucoup voyagé.
Ouais,
je me souviens encore des images que t'avais fait en Inde sur un muraille comme ça. Il y avait des singes qui se coursaient. Je me souviens de ces images. Ouais, ouais. C'était pas rien quand même.
Et puis l'Inde, c'était aussi un beau regard sur la vie.
Mais qu'est-ce que tu as fait en Inde ? C'est la musique qui t'a emmené là-bas ? C'est la culture ?
En fait, non. En fait, il y avait l'année culture française. Et il y avait le TNS qui était invité pour jouer, pour présenter des spectacles à New Delhi. Et on avait été là-bas pour voir un petit peu comment ça se passait. On avait profité aussi pour faire des reportages un peu annexes.
Et donc, pour le journal,
on avait fait un gros magazine. 26 minutes, ça avait été beaucoup de travail.
C'est du boulot, ça, 26 minutes, c'est pas rien. Hein.
Non, c'est long à faire.
Il faut camérer, hein, comme on dit.
Il faut camérer, ouais, il faut tourner. Il faut... En plus, ça, quand on découvre un pays, il faut faire attention de ne pas trop filmer parce qu'on pourrait effectivement, à chaque coin de rue, en Inde, on peut faire des images.
Ouais, mais ça, c'est le métier. On sait très bien sélectionner. Quoi.
Après, on est obligé de se calmer. Quoi. On s'est dit, on ne peut plus, parce que c'est tellement beau aussi.
Et tu es retourné en dehors du tournage en Inde ? Tu es retourné en vacances ?
Non, je suis pas retourné. Non, je suis, par contre, là, depuis quelque temps, on essaye de voyager aussi à l'étranger, mais pour ton plaisir.
Ouais.
Et voilà, quoi.
Et alors, parle-moi un peu du Japon. C'était comment quand tu étais au Japon ?
Alors, c'était compliqué de travailler au Japon parce que, en fait, ils sont très misogynes.
Ah ouais ? Les Japonais ?
Oui, ils ne parlent pas aux femmes, surtout quand on va rencontrer des gens importants. Moi, je me souviens sur une interview, c'était le patron d'une grosse société, puisqu'on faisait aussi des sujets annexes, en quelque sorte.
Tu parles de Tokyo, là, de la grande ville ou...
De Tokyo, oui. Ouais. On a fait Nagoya, etc.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Shinkansen ? Ouais. On était en train déjà, le train le plus rapide du monde. Là.
Ouais. C'est étrange parce qu'on n'arrive pas trop à savoir quel contact on peut avoir. Enfin, c'est mon impression. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit ça, mais c'est mon impression. Et finalement, c'est vrai que quand on a fait les interviews avec des hommes, souvent, ils me regardaient moi plus que Christine.
Ah ouais, plus que la femme. Ouais. Ouais. Voilà, une drôle de place là-bas, la femme. Hein, je crois. Peut-être plus de nos jours, maintenant, ça a peut-être changé.
Mais en tout cas, c'était très significatif au moment où on y était. Quoi.
Et puis, je sais que les hommes sont souvent...
Moi, je me suis retrouvé un peu claustro, parce que comme tout est écrit en japonais...
Ah oui, on est perdu.
Je me trouvais un peu perdu.
Quand tu prends le train, il n'y a rien en anglais ou en alsacien là-bas.
Moi, d'habitude, je me repère bien dans la vie, je m'en sors. Bon, heureusement...
Mais vous aviez un guide ou une guide ?
On a eu quelqu'un, un interprète avec nous.
Un interprète,
mais on se déplaçait souvent avec des taxis.
Ah, des taxis,
c'était le plus simple, quoi. C'était assez bizarre.
C'est beau, le Japon, quand même. Hein.
Les paysages... Puis on est tombé au mois d'avril, donc à la période où il y a des cerisiers en fleurs.
Quand ça fleurit.
Donc, puis on avait accompagné l'orchestre philharmonique.
Ah, en plus ? D'accord, c'est là-bas.
Ils faisaient une grande tournée là-bas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été là-bas. Quoi.
Ah oui, et tu les as souvent suivis ailleurs, dans d'autres villes encore, en Angleterre ou...
Alors, moi, pas trop. La première fois où je les ai suivis, c'est quand il y avait un festival à Aix-en-Provence.
Et je sais que là, je t'ai vu tout à l'heure ému en écoutant cette belle dame. Est-ce que tu as été ému aussi à chaque fois avec l'orchestre quand ils jouaient des œuvres qui te donnaient la chair de poule?
À l'opéra, oui.
À l'opéra, tu
vois. Oui, à l'opéra, oui. Ouais. Il y a des choses qui sont un peu, qui sont poignantes, quoi. Quand on entend
Tu la vis, cette musique, quoi.
Ah ben oui, sinon il faut faire autre chose, quoi.
Ah oui.
Ah ben, quand on écoute la bohème, voilà, ça prend en trip.
Hein. Wow, ouais, c'est vrai que c'est des belles musiques, quoi. Ouais. Et ça sera toujours à la mode, encore dans des décennies, hein. Je pense que ça sera indémodable.
Pour moi, c'est comme le jazz, ça se démode pas.
Ah ouais.
Pour moi, c'est comme le jazz. Voilà.
Et tu écoutes souvent chez toi du jazz? Tu écoutes souvent la musique? Ouais, parce qu'on est accompagné de sa compagne qui est en train de sourire. Elle a un casque, mais elle ne voulait pas parler. Donc, et je suis ravi de l'avoir avec toi, franchement.
Oui, mais en fait, si tu veux, oui, elle était plus musique classique.
Ah!
J'écoute la radio et j'écoute beaucoup de jazz. Ouais, ouais.
Ouais, mais ça se complète, c'est complémentaire.
Ça se complète, oui, mais elle trouve que j'en écoute de trop.
Ouais, Jacques, alors, en fait, ce que je voulais te poser comme question, je sais aussi que tu transmets ton savoir à l'école de journalisme, au TNS, tu fais, tu transmets ton image à d'autres personnes, à des comédiens par exemple. Comment se comporter devant une caméra, c'est pas rien ça.
Ben oui, parce que en fait, j'ai pendant pas mal de temps, grâce à ces reportages que je fais notamment au TNS ou à l'opéra, on m'a demandé un jour de venir former les élèves régisseurs sur la musique et l'éclairage plateau. Mais quand on fait des enregistrements. Et donc, de fil en aiguille, je venais très régulièrement là-bas, travailler avec eux.
Au TNS, tu parles du TNS maintenant, ouais.
Et c'était intéressant parce que c'était un autre discours qu'on pouvait avoir. C'était beaucoup plus un peu littéraire. Et après, j'ai travaillé avec plusieurs réalisateurs qui venaient aussi former les étudiants là-dessus. Et j'ai travaillé comme ça en compagnie de gens fort intéressants ou avec des metteurs en scène pour qui j'ai fait des vidéos qui servaient à leur spectacle.
Alors ça, c'est intéressant, ouais. Ouais. Et après, tu étais à l'école de journal où tu étais consultant, professeur, tu enseignais la caméra à des futurs journalistes.
Oui, alors j'ai commencé à travailler en 77 ou 78, j'étais au QEG.
Donc, tu en as formé à Ruchiller, juste à côté,
oui,
là,
oui,
dans ce beau château. Là.
Oui, oui. Ouais. C'était folklorique. On travaillait, je me souviens, on faisait les cours. C'était on avait un studio qui était dans l'ancienne salle de bain du directeur de l'époque. Au dernier étage.
Donc, il ne fallait pas faire couler le robinet. Hein,
ouais, sinon... c'était des trucs assez incroyables, quoi, de faire ça. Mais c'était intéressant à faire.
Ouais. Et puis déjà, les gens, tu voyais que les gens, celui qui était passionné, celui qui arrivait au bout du bout, qui allait faire une belle carrière, tu t'en rendais compte qu'il y avait des gens doués, quoi.
Eh bien, Maryse Burgot, qui est...
Ah oui, qui était là. Ah, tu l'avais
s'appelle-t-elle, qui est en Israël en ce moment
Il bosse à la télévision également.
Ouais,
je me souviens pas de son nom non plus, mais je vois le visage.
Elle est brillante parce que je perds un peu le mémoire des noms.
Ouais, ouais.
Mais voilà, c'est des gens comme ça. J'ai des étudiants encore qui sont sur la 3, qui sont devenus chefs de service ou grands reporters que j'ai eu comme étudiants, avec qui je suis toujours en contact.
Donc là, on est fiers quand même d'avoir passé cette passerelle, d'avoir donné cette envie aux gens. Et aujourd'hui,
Il y a Caroline Sims aussi.
Ah oui, Caroline, qui est toujours à la télé.
On correspond de temps en temps aussi.
Ah, de temps en temps, tu as des nouvelles.
Oui, ouais, j'aime bien.
Et comment tu vois le métier évoluer, là, quand on voit maintenant que les jeunes travaillent avec des iPhones? Non, mais c'est de la folie, quoi. Attends, quand tu penses que les gens à un niveau... Moi, je vois l'émission qu'on faisait à la télé avec le Goethe, j'avais des super caméramen ou caméramen. Quand je vois maintenant qu'ils partent en tournée avec les iPhones là, qu'on a en poche, c'est quand même incroyable.
Alors,
quoi.
Ben, je pense que c'est un peu détruire le métier, quoi, tout simplement.
Ah ouais, c'est ne plus aimer l'image du tout.
Parce que faire de l'actu avec des téléphones, je pense que c'est quelque part... se donner des bâtons pour se faire taper dessus.
Ouais. Mais déjà, pour le dos, c'est peut-être plus intéressant parce que tu auras plus mal au dos.
Ouais.
Porter une caméra de 14 kilos, c'est déjà...
Ouais.
Mais je pense aussi que l'image n'a plus d'importance à la télé. Le support de l'image à la télé, c'est complètement négligé.
Je trouve qu'ils font beaucoup de fautes d'orthographe, quoi.
Ah, c'est bien dit, ça. Ouais. Voilà. Ouais. Il faudrait qu'on appelle Pivot pour lui leur donner
ouais,
des cours.
Ouais, ils font beaucoup de fautes d'orthographe parce que quand on détaille un tout petit peu, quand on a l'œil, on voit encore des images où le jury a laissé son pied de caméra dans le champ de son image.
Ah oui, ouais, ouais. Bah, il faut aller tellement vite. Il faut aller tellement vite.
C'est des cadrages qui sont faits à l'emporte-pièce.
Ouais. Bah, ils n'ont pas appris.
Ils vont trop vite. On leur demande, c'est peut-être pas souvent de leur faute. Je ne vais pas leur jeter la pierre, on demande de faire de trop et de trop vite.
Bah, écoute, on va se reposer un peu les oreilles à écouter une musique aussi que tu affectionnes. Vois-y voir Thomas, mets-nous voir cette belle musique, il va encore pleurer notre Jacques.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible.
Waouh, qu'est-ce que c'est beau, hein, ça détend bien les oreilles, ça. Hein. Et
oui,
ça te plaît. Hein.
Ça calme.
Ça calme, ouais. Alors, je sais aussi que tu as fait, je me souviens bien de tes images, tu as fait un voyage en Concorde, mais raconte-moi ça, c'était comment?
Eh bien, c'est un peu le hasard. Je suis parti faire ce reportage en Concorde. J'avoue que le résultat n'était pas à la hauteur.
Ah bon?
Non, je pense que...
T'étais malade?
Non, pas du tout. Mais le voyage était intéressant. En fait, c'était de monter dans une machine supersonique, hein. Et se retrouver à l'intérieur de tout ça pour se retrouver 3 heures plus tard à New York. Quand on part de Paris, c'est assez incroyable. Ça m'est arrivé une fois et c'est un souvenir incroyable. J'ai gardé juste encore l'étiquette de mon bagage.
Ah oui, ok, d'accord, Concorde.
C'est tout ce que j'ai gardé.
C'est quand même dommage, c'est quand même une fusée, c'est un avion magnifique.
Ouais, 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 ouais.
Et les Ricains l'ont pas du tout aimé, hein. C'est eux qui l'ont démonté, ce truc. Hein.
Ouais, ouais,
après, il y a eu ce malheureux accident, effectivement.
Je veux dire que lui, il a eu qu'un accident.
Ouais. Oui, c'est vrai.
D'autres avions.
Oui, c'est vrai. Tu as raison de le dire. Ça, j'y ai pas pensé.
D'autres avions ont eu
plein
d'accidents. Ils continuent à voler, quoi.
Ouais, mais je crois que c'était la jalousie des Ricains, de plein de gens qui n'en voulaient plus.
Mais pas que.
Ah, pas que. Ouais.
Pas que. Ouais. Ouais. Il a eu quand même un beau sosie avec le Tupolev qui est
aussi. Ah oui. Et alors, dis-moi, je sais qu'aujourd'hui, tu as la retraite un peu comme moi, tu fais beaucoup de sport, tu étais un bon tennisman, tu étais 15, je crois, 15-1, et aujourd'hui, tu fais du golf.
Ouais.
C'est comment de jouer avec cette petite balle?
Eh bien, écoute, ça permet de penser à autre chose, de se faire du bien, et puis de bien déconner avec les copains.
Et ton ami te fait aussi du golf, qui est dans le studio?
Eh bien, écoute, non, Yolande a fait caddie.
Elle pousse le caddie dans les grandes surfaces, tu veux dire?
Quand on est dans certains endroits, quand on n'a pas le sens de l'orientation, souvent j'attends qu'elle vienne pour retrouver mes clubs.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Mais, bah, Jacques, en fait, on est déjà presque à 29 minutes, il faut conclure. Bah, écoute, en tout cas, merci, j'étais ravi de t'avoir à la radio. Et j'espère te revoir bientôt pour une autre émission parce que t'as encore tellement de choses à raconter. Et la semaine prochaine, on aura un autre invité surprise. Maurice Kut, à bientôt. Salut Bissom.
Eh ben merci à toi.
Ben c'est un plaisir.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories.